Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur.
Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu ? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie ? Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur.
Hallelujah, hallelujah. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les perdus de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Les enfants du primaire sont attendus par le Père Jean-Christophe pour le temps de l'homélie. Le mois de juin est consacré à la prière au Sacré-Cœur de Jésus que nous avons fêté vendredi, puis hier samedi nous avons le cœur immaculé de Marie, le cœur douloureux de Marie, ce moment où l'amour de Dieu est exprimé à travers le cœur transpercé de Jésus sur la croix et où Jean a vu couler l'eau et le sang, signe pour lui de l'ouverture du cœur de Dieu et de la grâce des sacrements qui transforment nos vies. Ce dimanche, eh bien, nous introduit encore plus dans ce mystère avec l'affirmation de saint Paul. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. L'affirmation que fait saint Paul, et peut-être une contradiction dans sa vie, puisqu'il était persécuteur de ceux qui annonçaient que Jésus, qui était mort, était ressuscité, et voilà qu'aujourd'hui, c'est lui qui proclame cette même bonne nouvelle, parce qu'en lui, il y a eu un bouleversement, une transfiguration au fond de son âme. D'ailleurs, quand il parlera de son expérience de Dieu, il dira « Était-ce sur la terre, était-ce au ciel ? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais et je suis sûr, c'est que Dieu m'aime. » Et donc l'affirmation profonde, c'est que Dieu est amour, comme le dit saint Jean, mais saint Paul le dit de la même manière, puisqu'il parle de cette réconciliation. Alors que nous étions pécheurs, Dieu nous aime, Dieu veut cette réconciliation. Ce bouleversement dans le cœur de Paul, eh bien, devrait être le nôtre. comment vivons-nous, nous-mêmes, de la grâce du baptême qui nous transforme, qui nous transfigure. Essayons de mesurer un peu l'ampleur de cette certitude, de cette affirmation de saint Paul. Alors bien sûr, lorsque nous ouvrons les journaux, que ce soit la forme papier, la forme informatique ou sur les réseaux sociaux qui déversent incessamment leurs notifications, nous avons sans cesse la violence, la guerre, les horreurs en notre temps qui nous sont manifestées sans cesse. Et lorsque nous regardons le cœur du Christ transpercé, cette violence, le Seigneur lui en a fait autre chose. La philosophe Hannah Arendt a voulu réfléchir à cette question. Et elle a essayé de comprendre ce qui se passe dans le cœur de l'homme pour devenir aussi inhumain et être lui-même producteur du mal, producteur de la souffrance contre l'être humain. Et elle a appelé cela la banalité du mal. Et peut-être que notre société devient dans une banalisation de la souffrance, de la violence que l'homme fait porter à l'homme, et le risque est grand de ne plus être déconcerté, bouleversé par cette violence, et de ne plus être bouleversé même justement par la manière dont Dieu change cette violence en source de paix, en source de réconciliation. Car c'est Dieu qui a fait ce cheminement. Évidemment, pour cette philosophe, et la philosophie n'arrive pas jusqu'à Jésus, il y a un chemin de conversion, mais ce constat intellectuel doit pouvoir nous permettre de découvrir que Dieu donne une réponse dans cette relation d'amour qu'il établit avec l'humanité, si tant est que nous voulions bien croire ce que le Seigneur veut de bon pour nous et qu'il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. C'est pourquoi nous trouvons dans l'Évangile cette mission que Jésus donne de manière très limitée, bien sûr. Mais on voit Jésus qui dit aux 12, « Allez vers les brebis perdues !» Non pas vers ceux qui sont déjà dans la foi en Dieu. « Allez vers les brebis perdues pour guérir les malades, purifier les lépreux, expulser les démons. » Le chemin que Jésus demande aux disciples, aux apôtres, c'est justement de pouvoir réconcilier l'humanité avec Dieu le Père. Et il donne cette mission aux disciples. Alors, comment nous sentons-nous, nous découvrons-nous disciples de Jésus avec cette mission de réconcilier le monde avec Dieu ? De réconcilier le monde avec lui-même. Et cela n'est possible que par la grâce du sacrement de baptême, du sacrement du pardon, du sacrement de l'Eucharistie, qui sont ces trois sacrements qui font de nous un pèlerin sur terre. Avec la découverte de saint Paul, il m'a aimé, il s'est livré pour moi, et bien pour chacun de nous, c'est le même cheminement qui est à faire. Et bien sûr, nous voyons vite qu'il ne s'agit pas de faire des adeptes de l'Église pour avoir une communauté plus neutre. Il s'agit de permettre à chaque personne humaine de rencontrer Jésus comme l'a fait saint Paul, parce que lui seul peut guérir l'âme, le cœur, la volonté, voire même le corps blessé par la maladie du péché. La puissance d'action de Jésus est possible, quel que soit le mal intérieur qui ronge, qui dévore ceux et celles qui sont auteurs de violence contre les personnes en ce monde. Est-ce que nous croyons en cette puissance de guérison qui vient du cœur ouvert de Jésus ? Oh, bien sûr, il ne s'agit pas de remplacer les médecins du corps, des médecins de l'esprit, de l'âme humaine. Il s'agit bien de laisser à chacun sa mission. Ce n'est pas les prières de guérison qui vont guérir les corps par nécessité. Il s'agit de guérir l'âme. Et il n'y a que Jésus qui puisse faire cela. Alors, entrons dans ce monde surnaturel. Et saint Paul qui nous dit « Je mets ma fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus le Christ qui maintenant nous a donné cette réconciliation. » La fierté, ce n'est pas d'être le peuple le plus nombreux sur la terre en disant « L'Église est la plus forte. » Notre fierté, c'est de savoir que Jésus nous a réconciliés avec Dieu et qu'il a guéri notre âme du mal qui la ronge et qui devient une violence contre les autres, une violence contre Dieu. Et ce cheminement va être la réponse à la première lecture de ce jour. Lorsque Dieu fait une annonce prophétique avec le livre de l'Exode et avec Moïse. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient, mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. C'est-à-dire que l'affirmation de Dieu au temps de l'Exode s'accomplit maintenant par la réconciliation qui est possible à travers la mort et la résurrection de Jésus, à travers chacun des sacrements. Ainsi, oui, nous devenons un peuple de prêtres, un peuple de rois, une nation sainte, comme nous le chantons, non pas pour dominer, mais pour être au milieu de ceux qui apportent la paix, ceux qui apportent la joie, la réconciliation, l'amour du prochain. Et cela va se manifester dans nos familles, cela va se manifester sur nos lieux de jeu et d'études, cela va se manifester sur un terrain de foot. Et nous sentons bien en nous que cela est difficile. Si nous voulons le faire par nous-mêmes, c'est impossible. Mais pour Jésus, c'est possible. Par le baptême, il nous apporte la paix de l'âme, encore faut-il que nous croyions en cette puissance de Dieu. Alors, que notre communauté chrétienne de Nazareth, des patros, de la conférence Saint-Paul, de nos activités locales, puisse être le lieu où on vient se réconcilier sans cesse avec Dieu pour porter cette bonne nouvelle au monde dans lequel nous vivons. Et qu'ainsi, le monde puisse se transformer. Car le monde changera si chacun de nous change. Si chacun de nous laisse cette puissance de Dieu traverser sa vie, son corps, son cœur, son intelligence. Et je citerai le pape Léon qui, pendant toute la semaine, était en Espagne. J'invite chacun à prendre le temps d'aller lire tout ce que le pape a dit au peuple d'Espagne, mais à l'Église entière. Je citerai ce passage où il parlait aux jeunes. Dans la rencontre, il dit « Notre cheminement, nos désirs, tout ce que nous embrassons au quotidien, dans les joies et les défaites, dans les aspirations et les projets, sont l'expression de notre quête permanente. Nous sommes des mendiants d'amour, nous avons faim et soif de vérité, nous sommes en quête d'un sens profond qui nous soutienne, nous anime et nous aide à comprendre le mystère de notre vie. » Cette quête qui habite chacun de nous trouve sa réponse dans la croix et la résurrection de Jésus. Alors, cette joie d'aujourd'hui d'avoir l'entrée en catéchuménat de Kéren, eh bien, doit nous animer pour retrouver le sens de notre propre baptême et dire « Seigneur, tu as fait toute cette réconciliation en mon âme, aujourd'hui je peux être réconciliateur autour de moi. » Demandons à la Vierge Marie qui, le 19 septembre 1846, est apparu à Maximin et Mélanie sur la montagne de la Salette et qui a dit, voilà, cette réconciliation entre Dieu et l'humanité est possible. C'est pourquoi nous l'appelons la Vierge réconciliatrice des pécheurs. Et donc, notre mission est là. Par notre baptême, nous pouvons devenir réconciliateurs, porteurs de la paix et faire un monde nouveau. Demandons cette grâce pour toute la communauté chrétienne de Nazareth, afin qu'ensemble, nous puissions porter une voix nouvelle dans notre monde.